la chronique « Je lire » proposée par Henri Landré.
C'est la chronique « Je lire » qui vous propose cette semaine le numéro 184 de la revue 303 qui vient de sortir il y a quelques semaines. C'est un numéro trimestriel, c'est-à-dire dans sa forme régulière. Il y a, je vous le rappelle, 4 numéros trimestriels de cette revue, sous-titrés « Art, recherche, création », jusqu'à une époque récente soutenue par la région des Pays de la Loire, ce n'est plus le cas, et qui compte donc quelques 97 pages, toutes en couleurs, des textes, des photos, des dessins, autour d'une notion, d'une thématique. Ici donc, flux. Flux à comprendre comme transfert, mouvement de marchandises, de population, le flux, la circulation des biens et des personnes, à la fois dans l'histoire, dans la géographie, dans la politique, dans la société. C'est un numéro qui a notamment été coordonné, chapeauté par Frédéric Letourneux, qui est sociologue au sein de l'association Plan Neuf et journaliste spécialisé dans les thématiques sociales et sociétales, et Bernard Renoux, qui est photographe et auteur et qui travaille en indépendant depuis le début des années 2000 et qui est un collaborateur de toujours de la revue 303 depuis donc une quarantaine d'années. La revue se décline, je le disais, en plusieurs entrées historiques, géographiques, thématiques, politiques ou sociétales. Il y a par exemple un texte d'Anthony Poirodeau et brillamment illustré par Arnaud Aubry qui nous parle des câbles sous-marins de télécommunication. La fameuse dématérialisation d'Internet n'a rien d'immatériel puisque ce sont des câbles qui traversent les océans et l'un de ces câbles arrive à Saint-Hilaire-de-Riez en Vendée, il en fait le récit. On trouve aussi un texte qui pourrait paraître presque anecdotique mais qui est complètement politique sous la plume de David Prochasson, c'est la question des palettes. Les palettes qui aident à transporter les marchandises et ça n'est pas anodin, c'est un flux tout à fait étonnant qui traverse le monde à différents endroits. On trouve aussi un texte de Frédéric Letourneux que je me propose de vous lire autour des saisonniers venus d'ailleurs. Dans les exploitations agricoles de la région, les travailleurs étrangers constituent une part importante de la main-d'œuvre, surtout à la haute saison. Quand les tomates poussent, on ne peut pas attendre. Il faut des hommes et des femmes pour les ramasser, explique Anthony Lafage, co-associé avec son épouse Anaïs des Serres du Fréty, basée à Pont-Saint-Martin en Loire-Atlantique. Sur l'exploitation, il embauche à l'année un peu moins de 50 équivalents temps plein et jusqu'à 80 pendant la haute saison estivale. Sur l'ensemble des personnes qui travaillent chez nous, on compte 15 nationalités différentes et 5 religions, poursuit Anthony. Le travail se déroule soit sous serre, à la récolte des tomates cerises, soit dans l'atelier de conditionnement. C'est devant le tapis de tri sur lequel s'alignent des tomates de toutes les couleurs que nous croisons Marina et sa fille Anna, arrivées d'Ukraine en mai 2022. La famille, logée dans la commune de Pont-Saint-Martin, est venue frapper à la porte d'Anthony pour trouver du travail quelques semaines après son arrivée. Sur l'exploitation, les profils des travailleurs migrants sont variés. Il y a des travailleurs européens, dits communautaires, et qui peuvent donc travailler en France avec une simple carte d'identité, des Espagnols, des Portugais. Des Européens hors Union européenne, dont quelques Ukrainiens arrivés récemment, ou des Africains installés en France avec un titre de séjour leur accordant le droit de travailler, notamment des Guinéens. Anthony Lafage s'adjoint également les services de FM Recrutement, un cabinet spécialisé dans les métiers en tension, qui organise la venue de travailleurs marocains autorisés à travailler 6 mois en France. 5 d'entre eux, agriculteurs de métier dans leur pays, travaillent ainsi actuellement au Serre du Fréty, à l'image de Mohamed, originaire d'Errachidia, qui a la charge de travailler la plante juchée sur son chariot élévateur. Si je n'embauchais pas ces travailleurs étrangers, je ne pourrais pas faire tourner l'exploitation et d'une manière générale, on ne pourrait produire ni vin, ni fruits ou légumes, ni muguet, poursuit Anthony Lafage. C'est en effet dans toute la région nantaise, dans le vignoble comme dans les exploitations maraîchères, que la main-d'œuvre étrangère est devenue indispensable. C'est une tendance forte depuis une dizaine d'années, mais ça s'est vraiment accéléré depuis le Covid, explique Émilie Cheminant-Guillard, associée dans le groupe Cheminant, producteur de tomates à Carquefou et responsable de la commission sociale au sein de la Fédération des maraîchers nantais. Aujourd'hui, sur les quelques 3000 saisonniers que nous recrutons chaque année, sur des contrats qui s'étalent généralement entre 1 et 8 mois en fonction du type de production, on compte environ 30% de Français, 40% d'Européens communautaires, Roumains, Bulgares, Polonais, et 30% d'étrangers hors Europe avec un titre de séjour en règle et une autorisation de travailler en France. Pour les emplois en CDI, environ 2500 sur le bassin nantais, la proportion s'inverse. Le recrutement se déroule généralement soit via le bouche à oreille, soit par le recours à des associations spécialisées comme Job4Me, une association nantaise qui sert d'intermédiaire entre des exploitants agricoles et des demandeurs d'asile ou des réfugiés. Pour les employeurs, l'enjeu est de sécuriser la question de la régularité des papiers des personnes qu'ils emploient. Au sein de l'association, on fait un vrai travail d'accompagnement des migrants, on vérifie le dossier administratif, on les rencontre plusieurs fois et on les accompagne sur l'exploitation, explique Titoun Lavenier, bénévole chez Job4Me, en charge du secteur agricole. Au total, 44 contrats ont été signés via l'association dans le secteur agricole en 2023, contre 27 en 2022. Et le mouvement devrait se poursuivre. Depuis la signature, en mars 2024, d'un arrêté venu simplifier les autorisations de travail délivrées aux étrangers non européens pour certains métiers en tension, dont plusieurs métiers agricoles. Il faut dire que dans la région, sur certains secteurs, notamment la récolte du muguet, la tension sur le marché de l'emploi est particulièrement forte. Sur 8 jours, il faut recruter jusqu'à 50 ou 60 personnes, explique Simon Rouanette, responsable de la ferme de Belle-Île à La Chapelle-sur-Erdre, dans la couronne nantaise, qui produit une variété de fruits et légumes et dispose d'un hectare de muguet. Il est devenu très difficile de recruter des étudiants, surtout depuis la crise sanitaire. Avant, je recevais une petite centaine de CV. Cette année, je n'en ai reçu qu'une vingtaine. Durant la dernière quinzaine d'avril, il embauche ainsi surtout des saisonniers étrangers, et parmi eux, des ressortissants roumains. Mais si tout le secteur s'accorde à souligner les besoins en main-d'œuvre étrangère, le sujet reste sensible, et peu nombreux sont les exploitants qui souhaitent l'afficher sur la place publique. Même si ce que nous faisons est tout à fait légal, mieux vaut vivre caché, reconnaît, fataliste, Anthony Lafage. D'un côté, on subit de l'agribashing et on nous accuse d'exploiter les gens. De l'autre, certains nous accusent d'embaucher des étrangers à la place de travailleurs français. Ce type de remarque peut venir de monsieur et madame tout le monde. Depuis quelques mois, il doit aussi faire face à une fronde menée localement par quelques voisins contre son permis de construire visant à l'édification d'une maison située à quelques centaines de mètres de l'exploitation, dans laquelle il comptait loger des saisonniers. Face à la peur évoquée d'un accroissement des va-et-vient de travailleurs saisonniers, pouvant être source de nuisances sonores et foyer d'insécurité grandissante, Anthony Lafage ne décolère pas. Ici, il y a toujours eu des étrangers accueillis dans les exploitations, des Espagnols, des Portugais. On avait une vraie tradition d'accueil. Pourtant aujourd'hui, la question du logement est un vrai problème auquel sont confrontés les migrants qui travaillent dans les exploitations nantaises. À Nantes, c'est vraiment devenu difficile de se loger, surtout quand on enchaîne les contrats courts. Par exemple, les 5 travailleurs marocains qui sont chez nous logent dans une résidence d'appartements meublés située dans le vignoble qui leur coûte cher. Et il est difficile pour eux de se déplacer. En saison, on commence à 6h30 du matin et il n'y a pas de bus, poursuit Anthony Lafage. La vie à l'hôtel ou en squat est aussi le lot de nombreux migrants dont s'occupe l'association Job4Me. Or, si, légalement, l'employeur n'a pas l'obligation de fournir un logement à ses employés, la question se pose de façon encore plus cruciale pour des travailleurs migrants qui vivent sur place avec leur famille. Ceci est particulièrement le cas pour les ressortissants roumains, dont beaucoup vivent à Nantes dans des conditions particulièrement dégradées, notamment sur le bidonville de la Prairie des Mauves, qui, au fil des années, est devenu le plus grand terrain de France, accueillant quelques 750 personnes. Certains continuent de faire des allers-retours au pays, d'autres vivent depuis des années déjà à Nantes. La majorité sont des Roms, issus de campagnes paupérisées de Roumanie, et sont d'anciens agriculteurs ayant subi de plein fouet la mécanisation forcée prônée par la politique agricole commune dans les années 2010. Parmi les personnes qui travaillent sur le bidonville, environ un tiers le font dans l'agriculture, maraîchage ou viticulture, ou l'agroalimentaire, abattoir, assure Alexandre Leclève, directeur de l'association Trajectoire, en charge du diagnostic social actuellement mené sur le site en vue de son démantèlement. La vraie question reste de savoir comment mieux accueillir les travailleurs migrants dans les zones rurales. La question se pose effectivement à l'échelle métropolitaine. Il est quand même absurde que des gens qui habitent à Nantes, dans des conditions aussi dégradées, partent tous les jours travailler à plus de 40 km, renchérit un élu métropolitain. Mais le sujet est sensible et la Fédération des maraîchers nantais s'attache plutôt à minimiser l'embauche de ressortissants roumains dans les exploitations et assure mener une réflexion globale sur la manière de mieux loger les saisonniers, même si les obstacles financiers et fonciers restent évidemment très importants. L'autre problématique centrale concerne la maîtrise de la langue française. Si les bénévoles de l'association Job4Me accompagnent localement les travailleurs réfugiés et demandeurs d'asile dans la traduction de leur contrat de travail et des règles qui encadrent le travail, les travailleurs les plus éloignés des réseaux associatifs ou des travailleurs sociaux peuvent rapidement devenir une main-d'œuvre captive et dépendante. Quand un employeur cherche rapidement des saisonniers, il se tourne vers celui qui, dans son équipe, maîtrise bien le français et lui dit « Trouve-moi 15 gars pour la semaine prochaine ». Alors forcément, ça renforce des phénomènes d'emprise sur les terrains, poursuit Alexandre Leclerc. Sur place, dans les exploitations, les équipes communiquent souvent à l'aide de gestes ou de mots simples. On traduit des consignes, souvent on cède du téléphone. C'est un sujet central chez nous. On prend beaucoup de temps à les intégrer et on parvient à les fidéliser, souligne Émilie Cheminant-Guillard. Un travail est également mené depuis quelques années au sein du pôle prévention des risques professionnels de la Mutualité sociale agricole, avec la diffusion de ressources sur les bonnes gestuelles traduites en plusieurs langues et sous la forme de petites vidéos simples. La prévention sur les gestes répétitifs est particulièrement importante dans le maraîchage car le risque de troubles musculo-squelettiques est fort, explique Elisabeth Dézé, conseillère en prévention des risques professionnels à la Mutualité sociale agricole. Dans le parcours de beaucoup de migrants, le travail est une ressource intégratrice, non seulement d'un point de vue économique, mais aussi d'un point de vue culturel et dans l'apprentissage de la langue. Surtout que les métiers agricoles ne nécessitent quasiment aucune compétence particulière. Pour beaucoup de migrants que l'on accompagne, le maraîchage est une rampe de lancement. Ils peuvent avoir des profils très différents. Certains ont travaillé dans le secteur, dans leur pays. Pour d'autres, c'est une opportunité de gagner de l'argent, faute de pouvoir faire valoir en France leur diplôme et leur expérience, complète Titoun Lavenier. Au CER de Fréty, toutes ces histoires se mêlent. Celle de Seri, réfugié ukrainien, juriste de formation, de Mohamed, guinéen, que tout le monde dans les rangs appelle par son nom de famille, Sila, et qui est parfois en charge de la récolte du jour, ou encore de sa compatriote Fatou, qui vit à Malakoff, un quartier populaire de Nantes, et qui enchaîne, depuis son arrivée en France, les petits boulots dans l'aide à domicile, le nettoyage et le maraîchage. Et derrière chacun de ces parcours de vie, il y a une histoire singulière, des renoncements et des espoirs. C'est un article de Frédéric Letourneux, qui est sociologue et journaliste, et qui écrit donc dans la revue 303, dans ce numéro flux qu'elle a coordonné en compagnie de Bernard Renoux, et qui vient de sortir, c'est le numéro 184 de cette revue 303 à recherche et création, et qui est au prix de 15 € pour 96 pages, tout en couleur. La revue 303 connaît aussi un hors-série par an, et c'est en avril prochain, très bientôt, que sort le prochain hors-série baptisé L'Appel du Fleuve, et qui est donc autour de la Loire, mais entièrement réalisé en bande dessinée avec des autrices et auteurs qui sont tous et toutes dans la région des Pays de la Loire. Ne manquez pas ce numéro pour lequel un financement participatif a été lancé. Rendez-vous sur le site des éditions 303, édition au pluriel 303 en chiffres.com. Vous aurez toutes les informations et le lien pour participer à ce financement avec de nombreuses contreparties tout à fait formidables. Nous reparlerons de ce numéro spécial sur cette antenne. Il y aura plusieurs rencontres publiques qui vont être organisées, dont une fin avril à la Hap Galerie.
Bon, j'étais assis là à l'Armée du Salut. Je faisais un atelier d'écriture. C'est comme ça qu'on dit. La plupart du temps, je suis pas chanteur, je suis pas la star que tout le monde connaît. Non, comme tous les artistes ratés, on finit soit prof, soit on fait des ateliers. Moi, je fais des ateliers. Des ateliers poésie au collège, à l'hôpital, à Emmaüs, à Brest. Les plus grands poètes que j'ai rencontrés, c'était des enfants, migrants, mineurs, isolés. c'était les gars du CPN à Nancy. J'ai rencontré des gens, je vous raconte pas, ça vous déchirerait le cœur. Et puis, je suis pas là pour recycler la misère, ou la joie de le faire, ou vous raconter ma vie. Celui qui croit que je raconte ma vie depuis le début, il a rien, mais rien compris. Bref, bon donc, j'étais là à l'Armée du Salut à Paris avec mon petit atelier d'écriture de poésie. Ce jour-là, il n'y avait personne avec moi, j'étais tout seul, avec toute ma belle culture à partager, tout mon amour de l'humanité, seul comme un con, comme un rendez-vous raté, comme Guillaume Depardieu dans Les Apprentis ou comme Cluzet dans le même film, skieur d'escalier. Bref, j'étais mal embringué. Personne voulait écrire de la poésie. Ce jour-là, bizarrement, la misère avait autre chose à branler. Bref, il y a un petit gars qui rentre dans la salle et peut-être il a eu pitié de ma solitude. Il est rentré comme ça, dire bonjour. Bonjour, j'ai dit. Bonjour, Pascal, j'ai dit que je m'appelais. Enchanté, je lui ai serré la main. Bonjour, monsieur Pascal, il a dit. Et vous, comment vous vous appelez? Hassan. Bonjour, monsieur Hassan, j'ai dit. J'ai dit comme ça, pour causer, poli, gentil. Vous venez d'où, monsieur Hassan? Centrafrique. Ah, ouais. Bah c'est loin, j'ai dit. Ça a dû être un sacré voyage, j'ai dit. Oui, il a dit, oui, oui. Un jour, j'ai dit, faudra que vous me racontiez. J'ai dit, manière d'être gentil, poli, manière d'être bien éduqué. Un jour, comme ça, faudra que vous me racontiez. Ah d'accord, il a dit. Et là, il m'a tout raconté, d'un coup. Dans la salle aussi déserte que le désert de Libye, monsieur Hassan, il m'a tout raconté. L'arrivée d'une milice dans son village, son père et son frère sous ses yeux assassinés, le village évacué, la fuite au Soudan, au Darfour, la faim, la peur, le retour au pays, 2 ans plus tard, sa mère et ses sœurs disparues, la traversée du désert dans un camion surbondé. Ah oui, quand même, vous aviez quel âge? J'ai dit déjà accablé. 12 ans, il a dit, comme si c'était une banalité. Le désert libyen, la soif, les escroqueries d'esclavage, les camps de réfugiés, le passage en Tunisie. Il a fait toutes les villes de Tunisie une par une. Il m'a raconté toutes les villes de Tunisie une par une, les petits boulots, les l'escroquerie, les passeurs, et puis sa première traversée, bing, le moteur coule et tombe au fond de la mer. 85 personnes sur le canot gonflable qui coule avec. Je dis quoi, il y avait 85 personnes sur le canot? Oui, monsieur Pascal, 85 personnes qui ont coulé. Moi, j'ai eu de la chance. Ah oui, de la chance. Il a dit qu'il avait eu de la chance. Oui, moi, j'ai eu de la chance. J'avais nagé, j'ai nagé, nagé, nagé jusqu'à une bouée rouge. J'ai agrippé, glissé, agrippé. J'avais froid, froid. Il y a un bateau qui s'est arrêté, qui m'a sauvé. J'ai travaillé sur le bateau pour payer mon voyage, mais le bateau, il était tunisien. Alors, il m'a ramené là où je venais. J'ai été voir le passeur pour dire pour les gens quand même. Et le jour où je suis arrivé devant le passeur, il a tué bam bam 2 personnes devant moi avant que je lui parle. Alors j'ai rien dit pour le naufrage et les gens noyés. C'était plus sage, vous savez. Puis encore eu l'esclavage, les petits boulots, l'escroquerie. Monsieur Hassan, il est remonté sur un autre bateau gonflable, 85 personnes de nouveau. Là, c'est un paquebot qui les a récupérés. Bon, autant vous dire que moi, là qui vous parle, monsieur Hassan, il m'avait tué. Sans compter tous les trucs que j'imaginais qu'il oserait jamais raconter, tous les trous dans son récit, suffit de les remplir d'encore plus d'horreur. Et là, t'as le tableau XL de la barbarie. J'étais là, ahuri, accablé, souriant comme un con, sourire gêné de douleur aigre, genre mal au ventre, chiasseux mais sans toilette. Du coup, toute son année en Italie qui m'a raconté aussi l'esclavage, les petits boulots, l'escroquerie. Je me souviens plus, je peux pas vous raconter. Je regardais ses yeux, sa chemise, son bracelet. Il avait des belles lunettes, un peu dorées. La traversée des Alpes, ok, pareil, j'ai un peu zappé, je manquais d'oxygène. La frontière, la neige, les cachettes, les mains, les pieds, je les ai zappés, je m'en excuse. Et puis, encore les trains, TG, les contrôleurs, les descentes, les flics, les remontées. Ok, 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 à l'arrivée à la gare de Lyon, monsieur Hassan, il était très fatigué, genre un peu mourant. Alors la sécurité à la descente, ils ont dit ok, va, on veut plus te voir, ils l'ont laissé. Moi, j'étais déjà complètement mort, allongé par terre, liquéfié, je m'enfonçais dans les dalles de la moquette. Et monsieur Hassan, il continuait, le camp, porte de la chapelle, la manche sur le périph, les tentes éventrées, les duvets, les affaires brûlées. Moi, j'étais déjà sous terre, monsieur Hassan racontait la descente de CRS sur le camp. Finalement, l'arrivée à l'Armée du Salut. Et quel âge ça vous fait maintenant? Il a dit 22 ans. À la fin, il me dit, et vous, vous faites quoi, monsieur Pascal? Honnêtement, c'est pas impossible que, même livide comme j'étais, j'ai rougi. J'ai eu quand même le culot de lui dire, je fais ça, regardez, c'est de la poésie. Quelle honte quand même. Ah oui, c'est bien, il m'a dit. Si vous voulez, on peut en écrire ensemble, j'ai dit. Je crois qu'il a eu l'impression que j'essayais de le refaire, genre les petits boulots, l'esclavage, l'escroquerie. Il a dit, une autre fois, merci, c'est gentil. Au revoir, monsieur Pascal. Au revoir, monsieur Hassan, merci. J'ai pris mes petits poèmes, mon petit cartable, et je suis rentré chez moi avec ma petite merde de poésie.